Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cet audio qui, comme je vous le disais, hein, pour l'introduire dans cette page, en fait, Marie-Madeleine et Morgane Le Fay, dans leur essence, ont des caractéristiques très proches et surtout ce qui est important pour nous, c'est pas seulement d'aller les voir pour les contempler. Ouais, ils sont magnifiques, oui, ils sont magnifiques. Ces maîtres ascensionnés, ces sœurs et frères de la rose sont absolument formidables. Mais ce qui est intéressant, c'est de vivre leur enseignement parce qu'ils sont disponibles pour nous, leur enseignement. Et dans cette connexion que l'on peut avoir avec eux, eh bien, les enseignements de Marie-Madeleine et de Morgane Le Fay sont vraiment très proches et parfois se confondent. C'est-à-dire que j'avais l'enseignement, mais je ne pouvais pas forcément remonter directement à l'une ou à l'autre. C'était comme un nuage d'ailes ensemble. Alors, nous, au niveau du mental, c'est beaucoup plus facile pour nous de diviser, de se dire, eh ben, dans cette direction-là, c'est cet archétype-là, dans cette direction-là, c'est cet archétype-là. Là, il y avait quelque chose de beaucoup plus flou, c'est-à-dire d'archétypes qui se mixaient. Et finalement, au lieu de se dire, eh ben, c'est manque de clarté, du coup, c'est pas facile, du coup, j'aime pas ça, je préfère, de mon côté, y voir que il y a une réalité, puisque du coup, ce sont des femmes, des prêtresses qui travaillaient avec notamment l'eau, on va dire, donc tout ce qui est onction, parfum. Hein. On a d'un côté bah, Marie-Madeleine qui est tout le temps représentée avec son vase d'onction, c'est devenu son symbole de reconnaissance. Et on a de l'autre côté Morgane Le Fay qui est une des dames du lac, en fait, une des grandes prêtresses d'Avalon. Donc, il y a cet élément eau qui sont là avec elle et que le renseignement à un moment donné se confondent nous prouve qu'en fait elles étaient prêtresses finalement d'une même lignée. Et ça, c'est très important de se rendre compte hein, que c'est une très bonne chose pour nous de voir justement qu'elles ont vécu à des ères très différentes, hein, à 1000 années d'espacement. Et parce qu'une vérité comme ça, ben, se repère avec une différence spatiale et temporelle absolument incroyable de 1000 ans, eh ben, on voit qu'il y a une vérité là derrière, parce que justement elle se répète, parce que justement elle se retrouve à plusieurs endroits différents. Donc oui, Marie-Madeleine est nommée parfois le vase christique, la jarre christique ou alors la matrice christique. Il y a beaucoup de personnes qui l'appellent aussi le Graal christique, ce qui fait en fait la partager avec ce symbole-là de l'amphore, de la jarre d'alabaster qui contient les huiles d'onction et donc qui contient aussi leur grande magie. Marie-Madeleine, c'est une myrophore, c'est-à-dire, ce mot, ça veut dire une femme porteuse de myrrhe, la porteuse de myrrhe. Et ce terme apparaît pour la première fois dans les évangiles. Alors, imaginons un petit peu, parce qu'il faut savoir se replonger dans les époques à laquelle sont écrites les informations. Alors, on se met dans le point de vue 5 secondes de l'Antiquité. On imagine une certaine pauvreté, en tout cas de la géographie où habite Marie-Madeleine, des sols plutôt pauvres, plutôt secs, qui sont plutôt faits pour l'élevage, hein, notamment du coup l'élevage de moutons ou de chèvres. Donc on est vraiment loin, en tout cas moi j'habite en montagne, donc on est vraiment loin de ce côté très vert, très abondance, tantôt soleil, tantôt humidité. On est plutôt dans une terre avec le vent qui balaye les poussières, des tissus à l'époque hein, qui ne sont pas comme aujourd'hui, donc très durs ou touchés. Et on a bien sûr une image là du coup assez pauvre, hein, mais il y a aussi beaucoup de richesses. Il y a de l'or, Il y a beaucoup l'agriculture qui est formidable, on est capable de stocker énormément. Donc voilà, on ne va pas non plus plonger dans la pauvreté extrême de notre image, mais malgré tout, on a un petit peu perdu l'habitude de se dire que sur cette terre-là marchaient des porteuses d'amphores qui contenaient dans leurs antres sombres des odeurs pures et intenses de fleurs et d'encens. Et finalement, on les dit magiques, mais la magie est déjà là. Être capable de stocker une odeur est assez magique et incroyable. La fleur, en fait, a une telle courte durée de vie d'être capable de pouvoir conserver comme ça son odeur pour des années. C'est un petit peu justement comme si on les mettait dans des boîtes de Pandore. Et c'est magique, c'est très très luxueux, et c'est pour ça que quand Marie-Madeleine accueille, telle vraiment une prêtresse, Jésus en lui donnant l'onction du nard, hein, en anglais c'est spike nard, c'est encore quelque chose, c'est un encens qui est du coup distillé, c'est le summum du luxe. En fait, les évangélistes, enfin, bon, il n'était pas encore évangéliste à l'époque, mais on va dire l'apôtre qui critique ce fait-là, c'est parce qu'il voit en fait l'argent, cette dépense-là. Alors, il y a un rituel que Marie-Madeleine fait justement, qui en fait sacralise Jésus, son bien-aimé. En tout cas, qu'il l'accueille avant qu'il puisse être peut-être ensemble et reconnu comme bien-aimé. Je vais un petit peu trop vite dans mes propos, mais à l'arrivée de Jésus, il est sacralisé roi par Marie-Madeleine. C'est-à-dire qu'en tant que certainement déjà grande prêtresse à cette époque-là, elle l'accueille comme une grande prêtresse et comme lui faisant partie du temple, en fait, des prêtresses, donc du temple de la déesse. Elle le reconnaît, elle. En tant que grande prêtresse, en fait, on n'imagine pas la portée de cet acte-là. On vit les derniers moments, mais il fonctionne encore dans les traditions et pour certains, des prêtres-rois. C'est-à-dire que les pharaons n'étaient pas simplement des pharaons, ils étaient issus du temple. Et généralement, pendant longtemps en tout cas, les temples, c'était les prêtresses, avant que ce soit les prêtres, il y en avait, il y en a toujours eu des prêtres, hein, il ne faut pas dire que c'était 100% féminin non plus, mais la grande partie quand même, c'était des femmes qui étaient capables, parce que biologiquement, c'est une réalité, l'énergie féminine est capable d'aller chercher les informations dans les mondes invisibles. Il y a beaucoup, beaucoup plus de facilité, ce qui n'est pas interdit aux hommes, mais il y avait beaucoup plus de femmes qui avaient ces capacités-là. Et les hommes étaient introduits au temple pour apprendre, mais aussi pour accéder finalement à des postes privilégiés. Et c'est ensuite les grandes prêtresses qui choisissaient en fait, du coup, le grand prêtre et le roi pour ses qualités de sagesse, pour ses qualités de fréquence élevée, afin qu'il puisse diriger le royaume. Et c'est encore ça que l'on voit 1000 ans après dans la légende arthurienne, avec les théories des landes pauvres, appauvries, de wasteland, où c'est le roi qui va décider de l'état du royaume. Ça, c'est dans les légendes en fait qui sont les plus actualisées. Mais au départ, l'état du royaume dépendait de la reine. Ça, c'est pour les versions les plus primitives, avant qu'elles aient été beaucoup plus changées. Dans les légendes, l'état du royaume dépend de la reine. Et cette reine-là, et souvent aussi, pendant longtemps, et notamment c'était le cas de Cléopâtre, de la reine de Saba, etc., ce sont des grandes prêtresses, mais qui accèdent à des niveaux royaux. Donc, on y voit des êtres qui étaient à la fois formés dans la sagesse et dans le lien avec les mondes invisibles, avec les mondes de l'âme, mais aussi des personnalités très ancrées dans la gestion du royaume, dans la vie en fait. Et c'est ça l'essence même d'un prêtre ou d'une prêtresse, c'est d'être capable d'articuler les deux, de savoir être aussi bien dans le monde invisible que dans le monde matériel. Et c'était ça les rois prêtres et les reines prêtresses. Donc, on arrive à l'époque de Marie-Madeleine et on arrive du coup à cette époque où tout doucement les rois prêtres n'existent plus parce que ben, les autres, c'était quand même un petit cercle fermé hein, de pouvoir être accédé à ce statut-là. Et c'est comme un petit peu ben, la révolution chez nous, c'est que progressivement, les bourgeois, ceux qui ont fait richesse à droite à gauche, n'ont plus cette recherche bah, d'obtenir de la richesse et ils veulent le pouvoir. Et c'est ce qui se passe en fait à l'époque de Marie-Madeleine, c'est que on est en train de perdre totalement les rois prêtres, hein, comme le roi Salomon, le roi David, dont on sait que Jésus est dans la lignée. Donc il y a aussi une reconnaissance de la lignée royale de Jésus et de sa problématique enfin, et du fait qu'il est prêtre, parce qu'il a suivi l'enseignement prêtre. C'est peut-être notre dernier roi prêtre, en fait, qui n'a jamais pu accéder au trône, finalement, qui lui revenait de plein droit par ces deux lignées-là, par la lignée royale matérielle, parce que du coup, il était descendant du roi David, et parce qu'il a été entraîné par sa mère elle-même prêtresse. Ils ont énormément voyagé, c'est pour ça qu'on n'a aucune information de lui jusqu'à ses 12 ans, quasiment, qui fait en fait de lui un roi prêtre. Mais l'époque dans laquelle il a vécu ne lui permettait plus d'accéder à ce niveau-là. Et c'est aussi certainement une des raisons pour lesquelles voilà, il a été crucifié tout simplement parce qu'il était totalement justifié que ce soit lui qui prenne, en tant que roi du monde invisible et roi du monde visible, la succession en fait. Et voilà. Donc, on se remet un petit peu là-dedans, dans ces rois prêtres. Hein, et du coup, finalement, Arthur a été à nouveau, 1000 ans plus tard, un essai du rétablissement du roi prêtre qui n'a pas fonctionné. Mais on verra que du coup, dans la légende, il y a plein plein de choses positives tout de même. Ce n'est pas un échec. Donc on a ce rituel qui n'est pas compris par les apôtres, mais qui fait que Marie-Madeleine va donner l'onction à Jésus et ainsi le consacrer grand prêtre. Et donc, roi prêtre. C'est un moment absolument incroyable dont on ne mesure absolument plus la portée parce que pour nous, ça n'a plus de sens contemporain. Et Jésus, à ce moment-là, sait ce qu'il se passe. Et je veux dire, un petit peu, les apôtres sont là pour gâcher l'ambiance parce qu'ils n'ont pas toutes les connaissances qu'ont entre eux les prêtres et les prêtresses. Et c'est un moment de reconnaissance ultime et qui place Jésus sur le trône, en fait. Même si ce trône matériellement n'existe plus, puisque c'est les Romains qui l'occupent, cet acte-là le place tout de même symboliquement sur le trône. Donc, elle est la porteuse de cette faculté-là de pouvoir reconnaître le roi prêtre. Et ça surgit de cet amphore-là. Donc, il y a cette portée absolument incroyable de l'amphore et de l'huile qui consacre sépare la prêtresse plus l'huile, les deux, qu'il y a la consécration de Jésus en tant que roi-prêtre. L'un sans l'autre ne signifie rien. Donc on a un petit peu ce vase d'onction-là qui apparaît bah, justement dans toute l'imagerie de Marie-Madeleine, mais aussi comme un objet magique dans la plus pure tradition des contes en fait, des contes anciens. C'est l'objet magique qui transforme l'être banal en roi-prêtre. Et ce vase d'onction, en tant que typiquement le conservateur des odeurs pures, des effluves intenses de fleurs et d'encens, va être du coup également le conservateur de l'étincelle de vie, de l'essence. C'est comme s'il y avait de l'or symbolique en fait dans le vase. Donc voilà toute la portée de ce vase et des prêtresses. Et oui, on retrouve ce symbolisme de la jarre bien plus tôt encore, puisque finalement, elle, Marie-Madeleine, elle n'est pas celle qui l'a inventée. Elle est juste celle qui est au présent dans cette lignée-là et qui va se permettre d'aller se rebeller pour se dire, ben, le monde ne va pas le reconnaître comme roi, mais le temple le reconnaît comme roi. Et du coup, c'est un petit peu un acte très illégal, en fait, qu'elle fait. Et on retrouve ce symbolisme, comme je le disais, beaucoup plus tôt encore. C'est une lignée, donc on va le retrouver dans le culte de la déesse Inanna, qui possède bien entendu les qualités de la Vénus, en fait, de la déesse vénusienne, hein, comme Ishtar, Cybèle, etc., etc. Donc, en ce qui nous concerne ici, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire, je vais éviter de me perdre. Marie-Madeleine est supposée, hein, être une prêtresse de la lignée d'Inanna, justement, des prêtresses rouges, habillées en rouge. Et on sait tous que Marie-Madeleine est représentée avec cette couleur-là bien spécifique. Donc pour moi, par rapport à l'amphore, et par rapport à cette couleur-là, et par rapport au fait qu'on l'ait appelée la prostituée plus tard, parce qu'il était entendu que les prêtresses rouges d'Inanna connaissaient la magie sexuelle, on est vraiment dans Marie-Madeleine, la prêtresse. Et tout ça pour dire que nous arrivons à ce stade où nous apprenons maintenant, en fait, Marie-Madeleine va tout simplement partager sa connaissance de Mirophore avec nous. Elle va nous révéler que les parfums ont des actions sur le corps. Elles ne font pas simplement que consacrer roi, mais elles permettent d'accéder à notre royaume intérieur, si on veut. C'est-à-dire qu'on ne va pas devenir roi de ce monde, mais bien roi de reine de notre vie, souverain totalement. J'ai aussi réalisé un atelier il y a quelques années maintenant pour partager mes connaissances et techniques, hein, les savoir-faire vraiment de création, de symphonie, de synergie comme ça avec les huiles essentielles, les huiles sacrales. Je ne peux pas aller dans cet atelier qui est déjà absolument énorme, hein, dans plus de sagesse sur les différentes huiles. On va juste en regarder une. Mais si ça vous intéresse, je peux rééditer pour l'occasion cet ancien atelier qui s'appelait Intuition aromatique et que je mettrai dans la série Enquête. En tout cas, dans le cadre de cet atelier ici, de la blessure de l'enfant intérieur, moi, je peux voir un autre symbole en fait de la jarre de Mirophore, qui est le cœur enfermé, le cœur lui-même qui est jarre et amphore. Parce que justement, Marie-Madeleine est cette prêtresse rouge, justement parce que Marie-Madeleine choisit son roi, il y a dans cette action-là une action d'amour. C'est la bien-aimée, c'est l'épouse, et c'est pour ça que j'étais comme je partais sur Jésus le bien-aimé. parce que il y a l'ouverture de la jarre qui fait comme une ouverture du cœur au niveau du choix. Je te choisis comme roi. Tu es aussi le roi de ma vie. C'est très très symbolique. C'est aussi quand on choisit quelqu'un dans notre vie, il va devenir le roi de notre royaume. Et puis, ah bah, s'il y a déchéance, il y a déchéance. Mais ouvrir son cœur à quelqu'un, ce n'est pas simplement être dans une relation. C'est ouvrir le côté sacré de tout notre être. Et il y a ça aussi dans l'onction, dans l'action, dans l'action de l'onction, dans l'action d'ouvrir l'amphore. Je te choisis comme roi, je te choisis pour que nous ayons un lien sacré, je te choisis pour qu'ensemble nous formions le dolmen, le couple sacré, la chambre nuptiale et ses mystères. Donc, en nous coupant du réel, comme nous avons pu le voir, comme nous le verrons, nous mettrons notre étincelle de vie en cage aussi. On met tout dans l'amphore et on ferme. C'est une question de survie. L'amphore permet de faire survivre l'étincelle de vie, elle permet de faire survivre les odeurs suaves des fleurs. Donc la fleur survit. Et ainsi, nous aussi, en fermant, notre cœur et notre étincelle de vie survit. Elle n'est donc pas anéantie, elle est encore bien vivante. Vous voyez le symbole également à ce niveau-là. Et en ouvrant l'amphore, la prêtresse reine, en choisissant son roi, donne l'abondance parce qu'elle ouvre aussi son cœur. Elle ouvre son étincelle de vie. Et c'est ça qui va couler et qui va faire en sorte que le royaume soit abondant. Donc ce n'est pas uniquement parce que la reine va choisir son roi et qu'elle va lui donner une onction, elle va choisir, elle en prend un au pif. Non, c'est parce qu'elle ouvre son cœur à quelqu'un. La reine ouvre son cœur, ce qui fait de lui son roi, mais ça veut dire aussi qu'elle va inonder par l'ouverture de son cœur son monde, son royaume. Et bien entendu, ouvrir cette boîte-là est très, très effrayant. D'ailleurs, on le voit bien avec l'histoire de le mythe de Pandore, hein, qui l'a ouverte et elle a lancé tous les maux, les maladies, les malédictions sur le monde. Donc il y a un petit peu cette épée de Damoclès qui nous dit, eh bien non, moi je vais garder tout ça fermé parce qu'à partir du moment où je vais l'ouvrir, ça va être la fatalité. Ça va être également la plus grande vulnérabilité. Et en fait, c'est ça, cette fatalité-là, c'est de se montrer vulnérable. C'est ce qu'on apprend. On apprend que la vulnérabilité, c'est le risque, c'est la mort, et qu'il est beaucoup plus sûr et confortable pour nous de tout laisser enfermer dans notre amphore, de rester bien sage, de choisir un roi, mais sans ouvrir totalement le cœur, sans dépenser l'équivalent de 3 mois de salaire pour une ville entière sur l'onction de ses pieds de notre roi. Justement, Marie-Madeleine et toutes ces femmes absolument dangereuses hein, qui sont derrière les dernières prêtresses de Vénus, les Myrophores, nous disent au contraire qu'ouvrir notre cœur, c'est ouvrir la boîte qui libère l'étincelle de vie, c'est-à-dire l'enfant intérieur. C'est en libérant cette boîte-là que se crée le lien d'amour. Et c'est ce qui rend vivant. Donc, arrivé jusqu'ici, on peut se dire que peut-être qu'il y a un lien aussi. Pas simplement entre notre cœur et l'amphore, mais peut-être aussi que les parfums et les effluves seraient capables d'ouvrir la cage du cœur, dans laquelle est encore enfermée notre étincelle de vie, parce qu'il y a résonance entre eux. C'est un petit peu comme si ils étaient le symbole de cette vulnérabilité-là. Et dans ce cas-là, quel parfum, quelles huiles sacrées pour réaliser ce miracle? Ça va dépendre un petit peu de chacun. Mais en tout cas, c'est Morgane Le Fay qui va intervenir maintenant pour nous expliquer un petit peu. Donc, on a vu hein, que cette magicienne s'est progressivement assombrie au fur et à mesure de la christianisation des versions des légendes du roi Arthur. À la base, alors, je dis peut-être une bêtise, parce que j'ai pas fait de recherche, je vous le dis, là, ça me vient. Je crois que c'est Aliénor d'Aquitaine hein, qui avait demandé la première version de cette histoire-là. Et donc, ensuite, on a, alors, Aliénor d'Aquitaine, hein, qui est connue quand même pour avoir fait remettre la cour d'amour, et qui, pour moi, était dans la lignée des prêtresses. Elle n'était peut-être pas prêtresse, mais c'est absolument une femme exceptionnelle, hein. Mais à mon avis, elle a été éduquée dans une certaine connaissance de la prêtrise. Parenthèse fermée. En tout cas, à partir de là, on voit qu'il y a eu des actes successifs d'augmentation de la christianisation avec des parenthèses, parce que la christianisation peut être quelque chose de très positif. Là, en l'occurrence, c'est plutôt la christianisation du côté Saint-Pierre, Église, religion très structurée, très masculine aussi, qui va faire du coup de plus en plus rayonner le roi civilisateur, et du coup va entraîner vers le bas, vers le sombre, va faire peser comme ça la païenne Morgane Le Fay qui vit dans la nature avec les animaux sauvages. Pourtant, ils sont frères et sœurs, mais il y en a un qui va être élevé au rang de héros et l'autre qui va devenir la méchante sorcière. C'est là que se trouve la clé de la cage du cœur, dans cette information-là. Parce que ça nous enseigne que pour ouvrir la boîte de l'étincelle de vie, pour ouvrir notre amphore, pour ouvrir notre cœur, nous avons besoin de nous reconnecter au réel et à la nature. Nous avons besoin de nous reconnecter au corps. Nous avons besoin de devenir cette sombre intrigante qui vit dans la forêt avec les animaux sauvages. Elle ne l'a pas fait uniquement pour embêter le monde, pour montrer qu'elle est une sorcière. C'est une part initiatique du retour à soi et d'ouverture du cœur. Et c'est ce que veut nous dire Morgane Le Fay, c'est que bien souvent, on ne comprend pas pourquoi elle et pourquoi aussi Merlin est retourné à la vie sauvage. On nous le dit, c'est un petit peu anecdotique, comme ça, il a vécu dans la forêt sauvage. Non, non, c'est initiatique. Vivre dans la forêt fait que il y a un ancrage au corps. Un ancrage à la réalité, une ouverture du cœur que nous permet justement pas de vivre dans la civilisation. C'est-à-dire que on a ici et maintenant appris depuis qu'on est tout petit que le salut c'était dans la science, dans la technologie, que la lumière de l'esprit se trouvait en fait dans l'artificiel. Maintenant, tout est artificiel et on a encore l'intelligence artificielle qui rajoute une couche. Mais voilà, quand on regarde autour de nous, est-ce qu'on peut voir à quel point tout est artificiel et fait par les humains? Quelque part, oui, d'accord, tant mieux, il y a plein plein de choses très positives, mais ces choses positives-là ont annihilé notre connexion avec le monde sauvage, même en forêt. En forêt, les arbres sont désormais plantés en ligne droite. C'est une action humaine, c'est un artifice. Rares sont les zones absolument sauvages. Et on a l'impression, en fait, de vivre comme des fantômes parmi d'autres fantômes. On ne fait plus attention à la forme d'un arbre, aux saisons, aux couleurs des nuages, parce que ça passe en second plan. Il faut performer, il faut être productif, il faut réussir. Donc, pouvons-nous imaginer ce que signifie à cette époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, ce que représente une telle suggestion de vivre parmi la forêt sauvage? À cette époque-là, il y a 1000 ans, le contraste était moindre que maintenant. On est encore beaucoup plus dans l'artifice. Et déjà, pour devenir prêtre, pour devenir prêtresse, et pour quand on sentait que voilà, il y avait un petit problème au niveau de notre ancrage, elle partait en initiation à vivre parmi le sauvage pur. Déjà il y a 1000 ans. Imaginez le niveau de déconnexion que nous avons aujourd'hui. Et c'est ça que nous avons à rééquilibrer. Nous sommes des fantômes parce que notre cœur est enfermé, parce qu'il n'est plus connecté au réel. Nous ne faisons plus d'initiation dans la vie sauvage. Je veux dire, c'est pas uniquement européen, c'est pas uniquement chrétien. Je veux dire, ça fait partie de plein d'initiations pour le chamanisme, mais aussi tout simplement pour la vie du quotidien dans d'autres traditions. Par exemple, pour devenir un homme à 12-13 ans, eh bien, il fallait partir 3 jours dans la vie sauvage. Et c'est pas la vie sauvage de maintenant, on est d'accord, hein, c'est la vie sauvage de l'époque. Donc pas d'arbres plantés en ligne droite, pas d'extinction de loups ou de lynx ou de lions des montagnes. On est dans du sauvage dangereux. Et à vouloir tellement s'anesthésier du danger, on s'est entouré d'artificiels qui empêchent en fait notre cœur d'accéder au réel. Notre cœur est entouré d'artifices. Et ça le fait dépérir. Voilà ce que nous dit Marie-Madeleine et Morgane Le Fay au sujet de ces initiations, de pourquoi elles étaient dans le monde sauvage. Aujourd'hui, un petit peu moins quand même. Mais le corps et la sensualité ont longtemps été démonisés, notamment justement il y a 1000 ans. À l'époque du Moyen-Âge, des abbayes. Et aujourd'hui encore, ce qui reste, c'est que on confond sensualité et sexualité. On ne sait plus comment revenir au corps, parce que le corps, c'était synonyme tout de suite de sexualité, alors que le corps, c'est la sensualité, c'est j'ouvre mon cœur au sens, à mes 5 sens. Et on ne sait plus retrouver notre sensualité, on ne sait plus retrouver notre présence au corps. Et justement, pour en revenir un petit peu par rapport à ce qu'on a dit plus haut, parce que tout est lié, c'est parfois difficile de délier la pelote, eh bien, les prêtresses, que sont Morgane et Marie-Madeleine, nous disent que l'odorat est un de nos sens les plus efficaces pour retrouver notre sensualité, mais aussi pour l'ancrage, pour la conscience du corps et pour le retour au réel. Donc en fait, ce qu'on apprend là, c'est que pour ouvrir notre cœur, pour ouvrir notre amphore, on peut s'inonder d'effluves comme celles qui sont dans l'amphore. Donc par résonance, en fait, notre cœur résonne finalement avec le contenu de l'amphore. Notre vulnérabilité résonne avec les parfums. Et plus on est capable de s'inonder, et pas forcément de parfums là aussi artificiels, mais de s'inonder de parfums, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'aller dehors et de sentir la ville, de sentir la montagne. J'ai une chance énorme de vivre, comme je le disais, en montagne, et notamment quand il fait très chaud, le matin, en ouvrant la porte, il y a toutes ces odeurs qui arrivent de pain, de genêt, de bruyère, et elles inondent les sens. Mais bien entendu, nous avons aussi accès à des petits bijoux qui s'appellent les huiles essentielles. Et toutes ces effluves-là, on peut les utiliser pour intégrer et pour activer le chemin du retour à soi qui passe par ouvrir l'amphore. Donc oui, les odeurs, les effluves, les parfums font tout cela. Et même les sciences l'ont démontré, elles ont étudié l'influence des odeurs, hein, les fameuses phéromones par exemple, dans le processus de l'attachement. Que ce soit un attachement d'ordre amoureux, mais aussi de l'ordre de celui qui se produit entre une mère et son enfant. On en revient avec l'enfant intérieur ici. Donc l'attachement primordial. En fait, l'enfant est attaché à l'odeur de sa maman depuis sa conception, depuis la gestation. Et la mère, de son côté, en fait, va créer son attachement, elle, à son enfant, lors de la première rencontre, peau à peau avec son nouveau-né. Également, lorsqu'on demande au nez, c'est-à-dire aux professionnels, hein, les nez, qui travaillent dans la création de parfums, donc ce sont des personnes qui sont quand même capables de retenir des centaines de marques, d'effluves, de compositions, d'analyser les différentes autres compositions de parfums, d'inventer, pardon, de nouvelles symphonies odorantes. Donc ces personnes-là, quand on leur demande quelles sont leurs odeurs préférées, ils répondent toujours que ce sont celles de leurs proches. Et puis, lorsque nous sommes parfois dans la rue et que quelqu'un passe à côté de nous et qu'il porte par exemple la même effluve que celle d'un ex-amant, tout de suite, tout revient en mémoire. Un instant est capable de raviver ben, non seulement cette mémoire, mais aussi toutes les émotions qui vont avec. Toutes nos sensations passées. Donc, les effluves vont aussi réveiller, eh bien, notre propre animalité qui était déjà là en fait entre l'attachement de la mère et de l'enfant. Et donc quelque part, les parfums étaient aussi démonisés un temps parce qu'ils impliquaient toute cette sphère très vénusienne de sensualité qui n'est pas sexualité, mais aussi de toute émotion amoureuse. Ça les met en... Oh, comment dire? Comme un volcan en fait, en ébullition. Et comme on a appris à fuir le sauvage et tout ce qui était incivilisé, on a appris à fuir notre animalité. L'attachement, aujourd'hui, d'une mère et de son enfant est vécu comme quelque chose de répressible. C'est une erreur. La mère doit être capable, dès les premiers mois, de donner son enfant dans une institution, dans une crèche, à 3 ans, même s'il n'est pas propre, il va à l'école, parce qu'il y a ce côté animal et instinctuel entre la mère et son enfant qui est de l'ordre de l'incivilisé. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu la perte du rôle sacré de la mère dont on a déjà parlé. Tout est lié. Mais si notre animalité est liée comme ça à nos émotions un petit peu brutes, sauvages et donc cruelles, comme la douleur et la souffrance, on a vu que c'était des émotions aussi qu'on rejetait à cause de leur inconfort. C'est encore une autre raison pour laquelle on rejette notre animalité. Ce n'est pas que l'image dans laquelle on doit évoluer dans notre société actuelle, c'est aussi parce que on a appris à rejeter l'inconfort, plutôt que d'apprendre à ce que ce soit une part normale de notre vie, de notre réalité. Mais bien entendu, l'animalité consciente n'a rien à voir avec l'animalité sans âme, comme on essaye de, comme en tout cas à l'époque, on essayait de nous faire croire démonisée. Hein. Et c'est en cela que l'enseignement de Morgane Le Fay et de Merlin aussi, hein, comme on l'a vu, hein, qui quitte parfois Arthur pour vivre en forêt comme un sauvage pendant des mois, voire des années entières, hein, qu'il passe comme ça. Et donc, c'est cet enseignement-là. Et c'est cette raison pour laquelle Morgane Le Fay a été transformée en cette sorcière sombre, parce qu'elle était proche de sa propre animalité. Elle ne faisait que se reconnecter au réel, loin de tout ce qui était artificiel et dénué d'âme. Aujourd'hui, forcément, on pense à l'IA qui intervient de plus en plus dans nos vies. Certaines personnes sont déjà obsédées. Et nous ne pouvons que comprendre aujourd'hui Morgane et Merlin et leur enseignement, ce besoin de se couper de l'artifice à certains moments de notre vie pour renouer avec le réel. Et finalement, nous en avons encore plus besoin aujourd'hui que on avait déjà besoin à l'époque. Morgane Le Fay est aussi connu pour sa capacité de shape-shifter, c'est-à-dire de changer de forme à volonté, notamment de forme animale. C'est ce qui la connecte justement à son animalité. Et elle se transforme en particulier en oiseau, surtout avec la corneille, hein, qui est un de ses symboles avec laquelle on l'a reliée et qu'on est capable de savoir qu'il s'agit d'elle. Donc oui, elle a renoué avec sa part animale en elle. Ça veut dire qu'elle est capable d'être ancrée au corps. Donc oui, sentir les odeurs, les redécouvrir, va permettre comme ça de nous réconcilier avec notre part animale, à aimer notre part animale. D'ailleurs, si nous retournons à cette toute première rencontre mère-enfant, on peut voir aussi que ce n'est pas que l'attachement qui est animal, mais l'accouchement lui-même, c'est un moment qui est parfaitement instinctif, animal, naturel. Parfois, c'est même un des seuls que l'on peut encore vivre dans notre vie, dans toute son intensité, quelque part barbare, sauvage, brute comme ça. C'est aussi une plongée dans la réalité, dans notre animalité, avec les odeurs, avec les douleurs, avec les inconforts. C'est un moment dans la vie des femmes qui peut être du coup vraiment totalement rejetée par elles parce que c'est tellement un contraste absolu avec le civilisé bien antiseptisé, et peut-être justement parce que ça nous rappelle au fond que nous sommes dans cette animalité-là, dans cette sexualité-là, dans laquelle on a oublié de vivre, dans laquelle on s'est refermé. Et donc, oui, les corps communiquent entre eux, notamment dans la relation amoureuse, dans la relation symbiotique aussi mère-enfant, par les odeurs. Donc ça c'est aussi en particulier hein, dans le monde des animaux qui sont capables de sentir des proies, leurs proies, des kilomètres à la ronde. Donc là on n'est pas dans le corps à corps, mais je sais par exemple que les chevaux sont capables de sentir l'eau à plus de 3 kilomètres. Ils sont aussi capables de connaître nos émotions, les chevaux, en fonction de nos odeurs corporelles, parce que les émotions changent notre statut hormonal, change le statut hormonal de notre corps, ce qui va influencer sur notre odeur. Donc voilà, les odeurs ont cette faculté-là de nous relier avec le primordial, avec l'animalité, avec les émotions. Aujourd'hui, tout est civilisé, même les odeurs. Hein, nous attendons de nos collègues ou de notre voisin dans le bus qu'ils soient parfumés, qu'ils ne sentent pas mauvais. Nous ne voulons absolument pas sentir d'odeur corporelle parce que déjà il y a l'inconfort de la mauvaise odeur, mais il y a aussi cette intimité-là qui se crée avec quelqu'un dont on n'a pas envie d'être intime. Parmi les six intimités, il s'agit des intimités d'ordre émotionnel et parfois même sexuel. Et l'on sait bien que le sexe aussi conserve cette part animale. Donc, parce que nous rejetons nos émotions et en particulier les plus négatives d'entre elles, hein, nous mettons aussi les autres à distance. Car ce sont en fait les relations avec les humains qui font naître en nous le maximum de nos émotions. Les plus belles comme les plus difficiles aussi. Ce qui fait que en rejetant les odeurs, eh bien, quelque part, nous rejetons aussi les liens, l'amour et les émotions. Dans le sens le plus sacré, on veut du lien, de l'amour, mais à un niveau superficiel, beaucoup moins profond, beaucoup moins authentique. Nous rejetons notre vulnérabilité. Et on entre dans ce qu'il y a de plus difficile pour le cœur, parce que lui, il veut être le domaine. Il veut une relation authentique avec chacun d'entre nous, et nous, en même temps, on rejette cette authenticité-là. Donc dans cette connexion au réel, il y a bien sûr Prendre le temps de regarder les feuilles d'un arbre, la forme d'une fleur, les odeurs, mais il y a aussi la réalité de l'être humain qui est en face de nous, la réalité de ce qu'est un lien. Et aujourd'hui, on a tout aseptisé autour de nous, dans les maisons dans lesquelles on vit, hein, on est dans des super maisons qui ont des notes calorifiques absolument incroyables. Et quelque part, on a aussi anesthésié nos liens, nos relations. Et c'est bien comme ça parce que ça nous permet de ne plus être vulnérables. Et du coup, on consomme. On consomme du lien, on consomme du sexe, mais il n'y a plus rien de sacré parce qu'on est totalement coupé de la réalité du lien, de la réalité de l'autre, du réel. Le cœur ne peut pas fonctionner comme ça. Bien entendu, l'artificiel a eu énormément de choses positives, hein. On est capable maintenant de tous vivre sous un toit, dans le confort de la chaleur. Le corps a trouvé une sécurité. Mais nous sommes allés trop loin. Et aujourd'hui, nous rejetons la réalité du lien. Et on le voit, énormément de personnes restent célibataires ou demandent à leur bien-aimé plutôt d'être à leur service. C'est vraiment quelque chose qui a été très très abîmé parce qu'on est coupé, parce qu'on est dans l'artifice. Si les yeux sont les fenêtres de l'âme, hein, comme on le dit, eh bien les odeurs aussi sont révélatrices de notre essence intérieure, innocente et intouchée. Nos corps ne sont pas les seuls à posséder une odeur. Il y a une réalité, c'est que notre essence intérieure aussi en possède une. Une qui se mêle à celle de notre corps. Et ensemble, elles se mélangent et n'en font qu'une. Donc il y a l'odeur de nos émotions, comme les chevaux savent le détecter, nos odeurs corporelles, et également l'odeur de notre essence, de notre âme. Il y a des mythes et des légendes qui disent que certains êtres ont réussi à fusionner leur corps et leur âme à tel point qu'ils étaient capables de rayonner des odeurs extraordinaires. Comme Thérèse de Lisieux, par exemple, hein, la sainte catholique qui répandait naturellement des effluves de roses, à un tel point que ça gênait parfois les autres sœurs, les autres nonnes qui vivaient avec elle. C'est d'ailleurs à l'odeur que l'Église catholique reconnaît ses saints, ce qu'elle nomme l'odeur de sainteté, mais qui se trouve dans d'autres traditions aussi, hein, ce n'est pas particulier au catholicisme. Le bouddhisme et l'hindouisme reconnaissent l'odeur des saints au moment de la mort. Bon, c'est pas des saints, mais l'odeur des maîtres. À leur mort, en fait, certains maîtres sentent les fleurs, même longtemps, plusieurs jours après l'événement, ou même encore plusieurs années lorsqu'on ouvre leur tombeau. À notre niveau, à nous, nous savons qu'une personne change effectivement d'odeur au cours de sa vie. Selon donc ses émotions, comme on l'a vu, mais aussi selon les hormones qui sont émises en fonction, par exemple, de la puberté, mais aussi en fonction de notre évolution personnelle. Donc oui, il y a l'enfant qui change d'odeur à la puberté, il y a la femme qui change d'odeur à la ménopause, mais on peut aussi influencer, comme les saints, notre propre odeur. Et c'est ça aussi que Morgane et Marie-Madeleine souhaitent nous transmettre à travers tout cet enseignement magnifique sur les effluves, sur la réalité du cœur, sur la connexion au réel, c'est que nous avons la responsabilité de sentir bon, mais pas par artifice, encore une fois. Pas en nous baignant de parfums luxueux chez Sephora, qui sont très très agréables, mais c'est pas ça, sentir bon. Nous avons la responsabilité d'exhaler la bienveillance et la gentillesse. Nous avons la responsabilité de réparer la blessure de vulnérabilité pour laisser se répandre l'odeur de notre âme. On en revient à l'amphore qui se ferme et qui cache l'odeur, celle de notre cœur. En l'ouvrant, en acceptant de montrer notre vulnérabilité, de montrer l'odeur, les couleurs de notre âme, nous montrons notre réalité. Nous faisons répandre l'odeur de notre âme. Et ici, les miroirs nous questionnent sur notre relation aux odeurs. Et on va voir des questions dans la suite de cette page afin de prendre quelques instants pour y réfléchir. Pour finir, elles me font encore revenir sur le lien qu'il y a entre le cœur, le sentiment d'amour et les odeurs, mais aussi sur la sécurité. L'odeur de nos parents va créer, en effet, on l'a vu, notre attachement primordial, c'est-à-dire finalement la base de notre relation avec eux, mais aussi de toutes nos relations futures. D'un point de vue plus sensoriel, entrer dans les bras d'un parent, et surtout d'une mère, nous inonde de son odeur. Ça va nous rassurer, nous consoler tout autant que si on nous touche, tout autant que si on nous dit « Ah, ça va aller, t'inquiète pas ». L'odeur, c'est la sécurité. L'odeur de la maison retrouvée. Donc, notre sensation de sécurité, notre sentiment de sécurité passe par notre relation aux odeurs. Donc, nous avons aussi à explorer cette thématique-là parce que nos parents nous ont peut-être privés de leurs bras, privés donc de ce nourrissage, comme on l'a vu, affectif avec la mère, et donc nous ont privés de leur odeur. Et ça aussi, ça a créé un sentiment de manque de sécurité, de cette sensation-là de ne pas être à la maison, ce manque d'appartenance. Ou juste en fait parce que parfois, nous n'avons pas pu jouer dans notre enfance à explorer les odeurs. Donc, nous nous éloignons aujourd'hui des odeurs naturelles, comme nous nous éloignons en fait des émotions aussi, parce que nous n'avons pas connu cette sécurité-là de les vivre, d'avoir l'odeur de la sécurité pour pouvoir gérer en fait nos émotions. Et donc oui, à eux deux, le toucher et l'odeur de la mère surtout va représenter la sécurité affective. Ça, c'est la première réalité de l'enfant, sa première expérience d'intimité et de fusion avec l'autre. Et sans cette intimité, alors il n'y a pas de sentiment de sécurité, il n'y a pas de sentiment d'avoir cette maison intérieure dans laquelle on peut gérer la réalité. Et donc on se ferme à la réalité. Donc oui, pas de capacité de trouver une intimité pleine et joyeuse, ensuite, dans de futures relations amoureuses. De même, sur encore notre échelle, notre corps va garder en mémoire l'odeur de ceux qui nous ont abusés. Et va nous en dégoûter. Parfois, on ne sait pas pourquoi on ne peut pas sentir quelqu'un. On dit « je ne peux pas le sentir, lui ». Parce que le corps émet l'odeur de l'essence. Donc si l'odeur de quelqu'un nous dégoûte, cela doit être examiné très attentivement. Vraiment pour finir cette fois, nos guides insistent sur la notion d'amour et de lien passant par l'odeur avec cet autre point de vue, en nous disant qu'au final, l'amour est autant animal qu'âme. Donc, il y a ce côté-là de l'amour additionne. C'est pas l'un ou l'autre, c'est pas comme le mental qui divise. L'amour additionne, il conjugue, il unit. On le voit bien dans le couple, où il unit deux personnes. Unir, c'est vraiment la base du concept d'amour. Symboliquement pour l'individu, c'est intégrer les parts de soi, c'est redevenir un. L'amour de soi, c'est ça. Et les parfums peuvent aider justement dans cette exploration de défragmentation de l'être parce que les odeurs ouvrent le cœur qui unit. Et du coup, par extension, les odeurs nous permettent d'unir, donc de nous défragmenter, de retourner à soi, donc vraiment utiliser dans la guérison des blessures et surtout celle-là puisque ça va guérir notre cœur. Alors oui, le vase, comme on a commencé là-dessus, peut être vu comme le vase christique, où la magie de l'amour opère, en fait la magie par l'amour, dans l'amour. Et il peut être vu, ce vase christique, comme le corps, le gardien de l'odeur magique de l'âme, comme le cœur, qui délivre les fluves d'amour. Mais dans tous les cas, pour que la magie se répande, l'amphore doit s'ouvrir, les émotions doivent se vivre, les odeurs senties avec une grande respiration vont agrandir l'espace du cœur et ainsi l'essence de vie va progressivement prendre cette ampleur-là. Et notre étincelle de vie va être retrouvée, elle va retrouver le mérite et la joie de vivre pleinement cette incarnation, la sécurité aussi. Ça va nous reconnecter avec notre féminin, ça va nous permettre d'élaborer la mère positive intérieure, d'entrer en reliance avec Vénus. Voilà, en résumé, nous pourrions dire que notre odorat nous aide à guérir les blessures de l'âme, notamment cette blessure-là et la blessure de relation d'amour que l'on a avec les autres, que l'on a avec soi-même, et du coup de faire vibrer notre espace du cœur pour répandre un jour, quand on sera en sécurité dans notre vulnérabilité, la propre odeur de notre âme. Alors oui, je vous propose maintenant de jouer avec les odeurs et de voir jusqu'où elles peuvent vous emmener, jusqu'où elles peuvent nous aider à ouvrir notre cœur en fort, jusqu'où elle est capable de nous connecter avec le réel et avec l'amour de soi. Je vous remercie d'avoir pris ce long moment pour écouter ces enseignements et puis je vous dis à tout de suite pour la suite, notamment pour les questions des mirophores. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et surtout, achetez plein d'huile essentielle. Vous encourage à vous entourer d'odeurs non artificielles. Et oui, une à la fois, simplement pour voir ce qui se passe en vous, pour voir ce qui se passe dans votre vie. Je vous embrasse et je vous dis très vite pour la suite.